So much space. Need to see it all.
I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space.
I'm in space.
I know you are, mate. Yeah, we're both in space.
Space!
Anyway, you know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say?
I'm in space.
I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And I am genuinely sorry.
I'm in space.
Salut à tous et bienvenue à vous qui écoutez ce 9e épisode d'Original Soundbloggers. Nous sommes, comme tous les mois, en compagnie de nos copains Onink et Vicpor. Comment ça va, les gars?
Ça va, Imhotep, comme d'hab.
Ouais, ça va, moi aussi. J'espère que vous kiffez bien le son midi et la musique rétro en général, parce que cette semaine, vous allez en bouffer. Hein.
Effectivement, on va en bouffer, puisque comme vous pouvez le constater, on a eu cette magnifique intro qui est si chère à Vicpor, avec... Portal 2, I'm in space. Space.
Voilà.
Et donc, bah, le thème est tout choisi, hein, vous l'aurez compris. L'espace, on va vous parler des musiques d'espace dans le jeu vidéo, de manière générale, de l'espace, de l'utilisation de ce magnifique univers. Et notre invité qui a choisi le thème, il s'agit du président du site gamers.fr, il s'agit de Crystal Warrior. Comment ça va, Crystal?
Bah, ça va très bien.
Et merci. Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir.
Bah, ça me fait aussi très plaisir de participer, ça faisait un petit moment que je voyais que vous faisiez un petit podcast et je me suis dit ça serait bien un jour voilà, que je vienne vous embêter un peu.
Eh bien tu as bien fait, ça nous fait très plaisir de te recevoir. Donc pour ce podcast consacré, rappelons-le, à l'espace, et on va commencer avec cette musique de fond que vous entendez depuis tout à l'heure. Musique désormais culte hein, du jeu vidéo, le thème principal d'Halo, le jeu de Xbox, jeu de Microsoft, sorti en 2001, donc sur la première Xbox, puis en 2003 sur PC. Des musiques de Martin O'Donnell, épaulées par Michael Salvatori. Halo, c'est quand même 5 millions de jeux vendus. Vous, je suppose que vous y avez joué.
Absolument pas.
Non, même pas.
Mais Onink.
Mais non. Désolé de te décevoir, mais...
Oh là là.
Fait, pour ma part c'est simple, je suis un joueur PC à la base, et quand je joue à la console c'est sur PS3 que Halo ça m'est complètement passé à côté. Non mais Halo quoi.
Oui, c'est une raison simple, c'est que j'aime pas les FPS.
Voilà. C'est simple. Halo, voilà, donc le premier s'appelait Halo Combat Evolved. Martin O'Donnell, donc, qui a composé la musique, lui il a indiqué que son but était d'apporter un sentiment d'importance, un poids et un sens de l'ancien. Alors je ne sais pas ce que veut dire cette phrase, mais il l'a dite. Et il a travaillé avec les designers des niveaux afin qu'ils lui indiquent ce que doit ressentir le joueur dans ces niveaux-là, en sachant que la musique ne devait pas être présente en continu car elle perdrait de son impact selon O'Donnell. Et donc on entend ce magnifique thème principal d'Halo, joué par un orchestre. Ouais, quand même très connu ce thème, assez culte. Il vous inspire quoi, vous?
Ça fait un peu musique religieuse.
Ouais.
Avec
les chants, les chœurs.
Ça fait
ouais.
Mystique, quoi.
Sachant que pas grand monde n'a joué à Halo par ici, à part moi et encore par bribes, on va directement passer à la première musique de diffusion. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que pour une question de temps, on avait l'habitude de souvent dépasser l'heure qu'on avait réservée à ce podcast. On a décidé de couper un peu dans le vif. Avant, on avait 16 morceaux à vous diffuser, maintenant on en a 14, voilà, 7 groupes de 2 morceaux, plutôt que 8. Donc pour une question de timing, tout simplement... En espérant que l'émission puisse durer un peu plus proche d'une heure plutôt que l'heure 10 qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc on va diffuser un morceau, voilà, Onink en parlait tout à l'heure, de 8 bits, hein, de 16 bits, de morceaux un petit peu vieillissants comme ça. Un jeu de combat spatial sorti en 1990 sur DOS puis sur Super NES qui s'appelle Wing Commander. Alors le jeu est sorti également sur Amiga, etc., sur plein de plateformes. Des musiques de George Alistair Sanger, qui a également travaillé sur Maniac Mansion et sur Might and Magic 3 notamment. Onink, c'est pas toi qui nous a proposé le morceau, mais je crois que tu peux en parler.
Oui, bah Wing Commander, c'est sûrement un des jeux de shoot spatiaux les plus cultes de l'histoire. C'est vraiment une pierre fondatrice dans l'univers de ce genre de jeu, donc c'est un jeu en vue cockpit. Donc une vue cockpit assez impressionnante à l'époque, vu que c'est sorti sur Super NES. Et donc le but du jeu, c'était, vous l'avez deviné, de tirer sur des vaisseaux des vaisseaux méchants, un peu à la manière d'un Rogue Squadron plus récemment. D'ailleurs, en parlant de Rogue Squadron, il faut savoir que Wings Commander est très largement inspiré des films Star Wars, que ce soit dans le design des vaisseaux, ou même dans la manière d'entrer dedans avec le cockpit qui s'abaisse, le pilotage, ou même l'univers galactique. Donc voilà, c'est un jeu très marquant, avec pas mal de dialogues, des phases un peu point and click dans le vaisseau assez sympathiques, et des musiques héroïques comme celles que vous allez écouter.
Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est que ça fait un peu épique, limite RPG par un moment, je trouve, ce thème principal.
Et puis Wing Commander, c'est aussi une série qui est connue pour, dans les épisodes suivants, pour ses magnifiques cinématiques avec des incrustations de vrais acteurs dans les cinématiques. Ça pique aujourd'hui, mais
ça pique, ouais. C'est dingue.
Wing Commander, le thème principal du jeu, donc jeu sorti en 1990, ça peut-être un peu vous piquer les oreilles si vous n'avez pas l'habitude. Mais c'est un jeu culte, c'est un thème qui ne l'est pas moins. Wing Commander, à tout de suite. Thème principal de Wing Commander que vous venez d'écouter sur OSB Original Soundbloggers, toujours en compagnie de Onink, de Vicpor et de Crystal Warrior, notre invité. Et là, Vicpor, je vois que tu nous as fait une petite surprise en nous proposant le fond que nous écoutons actuellement, parce qu'on le savait, on l'avait vraiment pas vu venir, l'arche du Captain Blood, et non pas du Capitaine Blood, ils insistent apparemment bien là-dessus.
Ah bon ?
Ouais, l'arche du Captain Blood, le morceau s'appelle Ethnicolor et ça a été composé par Jean-Michel Jarre, ni plus ni moins. Alors,
ouais.
Victor, d'où ça t'est sorti ça ?
C'est sorti d'un IG Mag sur les pépites oubliées et dans lesquelles il y avait la série L'arche du Captain Blood. Donc j'ai découvert ça, j'ai vu que Jean-Michel Jarre avait fait des musiques et comme j'ai un pote qui est fan de Jean-Michel Jarre, bah, je me suis dit que j'allais lui faire un clin d'œil. Donc l'Arche du Capitaine Blood, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu sorti en 88 sur Atari, Amiga, Commodore, PC et Amstrad. Et en gros c'est un jeu de spatial, enfin voilà, où on est dans un vaisseau et on doit aller sur des planètes pour aller dialoguer avec des personnages, mais dialoguer sous forme d'icônes, enfin c'est super bizarre. J'ai pas tout compris, mais apparemment c'est assez dur parce que du coup, vu que c'est pas des vrais textes, faut arriver à décoder un peu les icônes, etc. J'ai vu quelques images où en gros c'est des voyages hyperspatiaux et ces espèces de gros trips sous LSD avec les capacités techniques, les mecs ont fait des trucs mais complètement fluo avec des motifs géométriques complètement zarvifs, ça a l'air un peu n'importe quoi. Mais voilà, Jean-Michel Jarre à la musique, donc c'est la classe, forcément.
Moi, ce que j'ai noté, c'est que le joueur y incarne un programmeur bloqué et cloné à l'intérieur de son propre jeu. Déjà, ça a bien fumé, quoi. Peu à peu, il se transforme en machine et il devra retrouver et détruire ses 5 clones avant de perdre définitivement sa forme humaine. Voilà.
Scénario de Philippe Ulrich.
Un jeu qui a quand même eu un gros succès, hein, numéro 1 des ventes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, numéro 5 au Japon, numéro 6 aux États-Unis. Donc ça a tapé, hein, ça a marqué son monde. Hein. Mmh. Musique de Jean-Michel Jarre, on reconnaît un petit peu son style, vite fait quoi, mais.
C'est sûr qu'en 8-bit sur un Amstrad ou un Atari, c'est un peu compliqué quoi.
Ouais, en 8-bit c'est pas évident, c'est clair.
Mais bon, on a placé Jean-Michel Jarre. Déjà,
ouais, ça, c'est bien.
Ça peut être qu'un podcast épique.
On va maintenant vous diffuser un morceau un peu moins 8-bit, peut-être un peu moins épique, on va dire, mais une superbe ambiance que nous a proposé notre invité Crystal Warrior, un jeu sorti sur PC en septembre 2012, des musiques de Ben Prunty. Il s'agit de Faster Than Light, on va écouter un morceau qui s'appelle Space Cruise. Alors Crystal, pourquoi Faster Than Light, pourquoi cette musique ?
Pourquoi Faster Than Light? Tout simplement parce que je suis tombé totalement par hasard sur lui en achetant un Humble Bundle. Et j'ai perdu un week-end entier dessus. J'ai eu le malheur de le lancer et j'ai pas réussi à le quitter. Pour faire simple, c'est une simulation spatiale. On joue dans un vaisseau vu de dessus. On joue des petits bonhommes qu'on déplace comme on veut dans le vaisseau. Et le but, c'est d'aller de galaxie en galaxie pour aller prévenir l'Alliance. Parce que je crois, si je me souviens bien, on a des documents secrets pour vaincre les méchants. Le jeu est totalement aléatoire, c'est-à-dire que quand t'arrives dans une nouvelle galaxie, il peut se passer n'importe quoi. Genre tu peux avoir des pirates contre lesquels te battre, ou bien tu rencontres un marchand, ou alors tu passes à travers une tempête qui brouille un peu tes radars. Voilà, c'est très très prenant. Et pourquoi cette musique? Parce que c'est la première musique, si je me trompe pas, c'est bien celle qu'il y a lorsque tu lances le jeu. Et tu la retrouves très souvent, parce que tu meurs très souvent dans le jeu, vu que le jeu est extrêmement compliqué. Bah voilà, cette musique, je l'ai choisie parce que je la trouve très jolie à force de l'écouter aussi. Dans les jeux indés qui sont sortis dernièrement, c'est vraiment une petite pépite à découvrir absolument, pour son ambiance, pour sa musique, et aussi parce que voilà, c'est très addictif comme jeu.
La superbe ambiance de Faster Than Light, donc proposée par notre invité Crystal Warrior. Le morceau s'appelle Space Cruise. On se retrouve tout de suite après votre petite sieste, votre petit moment de détente avec Faster Than Light.
Thank you.
Et maintenant qu'on a fait une petite sieste avec Faster Than Light, cette magnifique musique, on va maintenant accélérer un petit peu les choses, on va passer à petit électro avec, moi je trouve, un petit côté dubstep, mais bon, après ça va faire gueuler au Nink si je parle de dubstep.
Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
le jeu s'appelle Gradius 5, c'est le thème du premier stage qu'on entend en fond, Gradius 5 de la série culte des Gradius, épisode souvent considéré d'ailleurs comme le meilleur de la série. Un shoot 'em up sorti en 2004 sur PS2 et des musiques d'un certain Hitoshi Sakimoto, dont on a déjà parlé pour son travail dans FF12 et dans Muramasa The Demon Blade, mais il a également fait Vagrant Story, Dragon's Crown, Final Fantasy Tactics, etc. etc. Onink, toi Sakimoto, on sait que c'est ton petit pote. Quoi, bof bof?
Sans plus. Ouais, donc Sakimoto, on en parle à peu près à tous les podcasts, j'ai l'impression. Quoique, on s'est calmé récemment. Ouais, bon, alors Gradius 5, c'est un shoot 'em up sorti sur PS2, développé par Treasure, qui ont aussi bossé sur d'autres grands shooters comme Ikaruga, Radiant Silvergun, donc c'est pas des manches.
Pas de la merde.
Voilà.
Ikaruga qui est sur Steam Greenlight en ce moment, donc il attend que qu'on vote pour lui pour arriver sur Steam, donc allez-y.
C'est un remake c'est...
Non, c'est juste les versions d'origine, mais bon, qui défonce.
C'est un très bon jeu, hein, comme Gradius 5, hein, qui est un des meilleurs épisodes de cette série, à la base surtout connu en arcade, et réputé pour sa difficulté, hein. Même Gradius 5 qui est sorti sur PS2, donc on pourrait se dire ouais, ils ont un peu baissé et tout, mais non. Il y a plusieurs modes de difficulté, et même en très facile, faut vraiment s'accrocher pour le terminer. Musicalement, c'est assez étonnant de retrouver Sakimoto pour un jeu se déroulant dans un tel univers. Mais comme pour Radiant Silvergun, il s'en sort super bien en gardant son style, tout en lui insufflant un côté galactique pour coller avec l'ambiance du jeu. La musique qu'on écoute en ce moment est particulièrement cool, et c'est pas de la dubstep.
C'est pas de la dubstep, j'ai pas dit ça, il y a juste quelques... Voilà. Le début laissait planer quelques avant-gardes de dubstep, à mon sens.
Essaye de te rattraper.
Non, mais on va continuer un peu dans le shoot 'em up, dans la musique qui avoine. Là, c'est pas de l'électro, même si ça reste du 16 bits. Un shoot 'em up sorti sur Super NES en 1992, on revient un peu au début des années 90, avec un jeu qui s'appelle Axelai. On va écouter le thème du deuxième niveau du jeu qui s'appelle Colony. Alors, Axelai, en gros, c'est un jeu qui comporte 6 niveaux, et ces 6 niveaux, c'est 3 niveaux de 2 types différents. Un niveau sur 2 est un rendu classique, type plateforme en 2D, quoi, vu de côté, et l'autre niveau sur 2 est un niveau de conduite de vaisseau avec en utilisant le mode 7, donc de la Super NES. Et niveau musique, le compositeur, c'est un mec qui s'appelle Taro Kudo, qu'on peut voir aussi parfois sous le nom de Taro juste, ou de Tsuji Taro, pas compliqué comme gars. Taro Kudo, à la base, c'est un designer de jeu qui est actuellement directeur de Vanpool. C'est une entreprise pas très connue en France, mais ce mec-là, il a quand même fait le design de Mario RPG Legend of the Seven Stars. Il a fait le design de Mario & Luigi Superstar Saga. Il a fait le design de Super Castlevania 4, quand même. Et il en a fait d'autres. C'est un mec qui se démerde, et vous allez pouvoir constater que musicalement, il touche aussi pas mal. Ça fait un petit côté rock à trompette. C'est du rock bien grandiloquent avec un peu de code de musique classique, notamment dans les poussées avec des instruments avant comme des trompettes, voilà. Un peu progressif, on va dire. Je sais pas si vous connaissez ce terme musicalement. C'est voilà, ça se balade un petit peu dans tous les sens. C'est très sympa à écouter, donc je vous propose qu'on écoute ce thème donc d'Axelai qui s'appelle Colony. Crystal Warrior est toujours notre invité, le président de Gamers.fr est donc là sur Original Sound Bloggers, le 9e épisode que vous écoutez toujours et qui est sur l'espace aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à un jeu, à un MMORPG que moi je ne connaissais pas trop, j'avoue, puisque moi de toute façon les MMO c'est pas spécialement mon truc, et c'est pour ça qu'Onic va nous en parler, n'est-ce pas? MMO islandais de 2003, déjà islandais c'est pas très commun, islandais sorti en 2003 se déroulant dans l'espace, évidemment. Musique de Real X, de son vrai nom John Hallur Haraldsson. Le jeu s'appelle Eve Online. Onink, monsieur MMO d'Original Sound Bloggers, tout repose sur toi.
Alors, Eve Online. Donc ça doit être, je pense, le MMO le plus vertigineux sorti à ce jour. Donc comme tu l'as dit, il se déroule dans l'espace. Hein. C'est étonnant vu le thème de l'émission. Et même si on peut pas s'y balader complètement librement, la carte de la galaxie, elle est vraiment absolument immense. Et le nombre de planètes est vraiment indénombrable. C'est un véritable système super grand. C'est vraiment de la folie. Et en termes de possibilités de jeu aussi, tous les aspects du jeu, que ce soit l'économie, la guerre, la politique, sont gérés par les joueurs. Contrairement aux autres MMO classiques où tout est statique. On se contente de s'inscrire pour être envoyé en champ de bataille. Et c'est vraiment un jeu assez révolutionnaire dans le gameplay, même s'il faut être préparé pour y jouer tant le jeu est riche. Trop riche pour les néophytes, ouais. Même moi, je suis un débutant, mais je m'y suis perdu dans les premières heures de jeu et j'ai abandonné. Pour les musiques, c'est vraiment de l'électro très zen, très calme, c'est super reposant, c'est un bonheur.
Donc là on écoute un thème en fond qui s'appelle Akat Mountains, qu'on passe pas en entier, mais le Akat Mountains c'est un thème qui fait 8 minutes 27. Donc si vous voulez planer pendant 8 minutes 27, voilà, c'est Akat Mountains qu'il faut écouter en entier.
Pour ceux que Eve Online intéresse, hein, je vous conseille d'aller voir les émissions de King4Games sur jeuxvideo.com qui ont fait 4 épisodes sur Eve Online, qui sont une bonne introduction à mon sens, même s'ils peuvent pas aborder tout parce que c'est tellement riche, tellement complexe, tellement immense que c'est impossible. Mais moi ça m'avait bien donné envie, je suis arrivé au troisième épisode, j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, j'ai fait non c'est mort. Enfin à mon sens elle fait bien son boulot cette émission, donc allez-y, ça vous donnera une bonne idée du jeu.
Au moins l'émission introduit bien tous les concepts, toutes les possibilités de jeu.
Ben ma foi on va rester dans l'espace, hein, quoi de plus normal pour ce podcast. Avec un jeu à côté duquel on ne pouvait pas passer, en tout cas une série de jeux à côté de laquelle on ne pouvait pas passer, évidemment, c'est la série des Metroid, puisque c'est un voilà, jeu absolument culte dont on n'a jamais parlé encore sur OSB, et il fallait bien que ça arrive un jour, et là le thème a été tout trouvé. On va parler plus particulièrement de Metroid Prime, FPS sorti sur GameCube début 2003, des musiques de Kenji Yamamoto, compositeur de la série depuis Super Metroid. Il a été assisté dans cet épisode par Koichi Kyuma, et on retrouve pas mal de remixes de vieilles musiques de la série, notamment le thème d'Overworld de Talon, la planète sur laquelle se déroule Metroid Prime, qui est un remix du thème de Brinstar du premier Metroid, et le thème des cavernes de Magmor est un remix de Lower Norfair dans Super Metroid. On va écouter là donc un thème qui s'appelle Ice Valley, qui est le thème du lac de Fendrana, situé sur les monts de Fendrana. On est donc sur une planète qui s'appelle Talon et dans laquelle il y a plusieurs environnements. Et ce lac de Fendrana, donc c'est un lac gelé, d'où le thème de Ice Valley. Metroid Prime, c'est quand même un jeu que moi je trouve extrêmement compliqué. Enfin après je suis pas un gros amateur de Metroid non plus. Moi les jeux où bon, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, déjà ça m'exaspère. Parce que j'ai vite tendance à me dire je suis très mauvais. Et Metroid Prime fait partie de ces jeux où on sait absolument pas où il faut aller. Tu peux perdre des heures et des heures dedans. C'est très frustrant, mais heureusement il y a quelques zones comme ça où on a, en début de jeu en tout cas, où on a une petite idée de ce qu'il faut faire, de où est-ce qu'on évolue. Donc les monts de Fendrana en font partie, avec donc ce thème très planant, vraiment très très sympathique. Un des meilleurs thèmes du jeu à mon sens, qui est ce thème de Ice Valley. Une électro un peu ambiante comme ça, un peu froide justement, qui résonne un petit peu. Donc Metroid Prime, le thème s'appelle Ice Valley, c'est le thème du lac de Fendrana. On se retrouve après pour la suite d'OSB. I'm not. Metroid Prime Ice Valley que vous venez d'écouter, et vous êtes toujours sur OSB. On est encore là pour encore 20 petites minutes, on va dire. On écoute actuellement en fond le thème de Rogue Galaxy qui s'appelle The Relics Song. Rogue Galaxy, personnellement je l'ai pas fait, mais on m'a dit que du bien. Un jeu de level 5 sorti en 2005 au Japon puis en 2007 en Europe sur PS2. Des musiques de Tomohito Nishiura, qui est connu évidemment pour son travail dans Professor Layton, compositeur et sound designer de Level 5 depuis 1998. Fatalement, il a également composé Dark Cloud et Dark Chronicle. Donc Rogue Galaxy, personnellement, moi, je ne peux absolument pas en parler. Je vous laisse faire, les gars.
Bon, bah, je me lance. Donc Rogue Galaxy, à ne pas confondre avec Rogue Legacy, qui est sorti récemment et qui a rien à voir. Là, il s'agit d'un RPG japonais sur PS2, se déroulant dans un univers qui mêle cosmique et piraterie avec des sortes de grands bateaux volants. C'est assez classe en termes de design, ce qui donne un jeu assez linéaire quand même, faut bien l'avouer, mais très bien huilé avec un super système de combat, une histoire assez cool. Moi, j'avais bien aimé à l'époque, mais pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, j'avais arrêté d'y jouer d'un seul coup. Ça m'arrive assez souvent dans certains RPG qui traînent un peu sur la longueur. Voilà, faudrait peut-être que je le reprenne, un de ces quatre. Oui, c'était bien, les graphismes étaient cool, enfin, c'était un jeu bien fait, voilà.
C'est marrant que tu parles de ça, de arrêter un RPG en plein milieu quand ça trouve ça trop long, parce que moi ça m'est arrivé sur Dark Chronicle, qui justement est un autre jeu de level 5. Alors je ferai pas le rapprochement entre les deux, ce serait trop facile, mais...
Ah, tu fais bien de dire ça, parce que ça m'était aussi arrivé dans Dragon Quest 8, level 5. Rogue Galaxy, pour terminer, l'OST est dans l'ensemble assez épique, c'est l'orchestral, dans la pure tradition des RPG japonais, et la musique qu'on écoute, ouais, ça fait un peu religieux, avec ses chants très répétitifs.
C'est un peu litanie, ouais, c'est un peu oppressé, en fait, au final.
Oui, bah, c'est la musique, si je dis pas de bêtises, du boss final.
Ah, voilà. On va continuer, hein, comme d'habitude, avec un morceau qu'on va diffuser d'un jeu qui est relativement culte, en tout cas pour les connaisseurs, qui a vraiment bien fait son trou. Je l'ai pas fait non plus, ce jeu-là, mais quand même assez connu. Un jeu PC sorti en 1999, mélangeant jeux de rôle et FPS. Un jeu qui s'appelle System Shock 2, l'ancêtre plus ou moins spirituel, d'après ce que j'ai compris, de BioShock. Des musiques d'Eric Brossus, qui a notamment bossé sur la série des Thief. System Shock 2, qui peut nous en parler?
Ça a été développé par Looking Glass. Bah, comme tu le disais, c'est un peu l'ancêtre spirituel de BioShock. De ce que j'en sais, c'est un FPS qui mélange un peu de jeux de rôle, un peu de jeux d'horreur. C'est un peu un Deus Ex-like, en fait, dans le style. Dans un univers cyberpunk assez glauque. Tout un univers avec des hackers, quelque chose de très technologique dans l'âme. Et voilà, après moi j'ai pas joué, mais de ce que j'en ai vu, bah, ça pique les yeux un peu quand même, parce que c'est vieux comme jeu, mais apparemment sur le système de combat est très jouissif. Faudrait que j'y joue plus en profondeur. Qui n'a, selon beaucoup de gens, pas eu le succès qu'il aurait dû avoir.
C'est un peu ce qui ressort généralement, ouais, que System Shock est quand même une référence technique, une référence parmi les gamers.
Ouais, tu parlais de Deus Ex Like, il faut quand même préciser que System Shock 2 est sorti avant Deus Ex et que c'est lui qui a vraiment inspiré Deus Ex de par ses mécaniques. C'est vraiment System Shock 2, c'est vraiment un jeu pionnier qui a inspiré aussi récemment Dishonored ou ce genre de jeu avec des gameplays très souples qui permet aux joueurs de choisir comment il va jouer. Donc infiltration, bourrin, souvent c'est ça. Après il y a souvent des systèmes de piratage en annexe qui permettent de progresser différemment. C'est vraiment un type de jeu assez complexe à faire, bien plus qu'un simple shooter ou RPG, et c'est ça qui a fait la renommée du jeu. À cette révolution de gameplay, il y a aussi on peut ajouter un scénar très riche qui plonge le joueur dans une station spatiale dans laquelle s'est déroulée une tragédie. Donc on va en apprendre de plus en plus au fil du jeu, avec des messages audio qui sont repris dans BioShock, avec des dialogues avec Shodan, une intelligence artificielle qui rappelle GLaDOS de Portal. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment influencé, qui a beaucoup influencé le média par tous ses aspects. Donc ça montre combien il a marqué son époque.
Tu parlais aussi d'ancêtre spirituel de BioShock. Il faut dire que c'est quand même Ken Levine qui était derrière avec Irrational Games. Donc voilà, c'est la même boîte, c'est le même concepteur, donc forcément... Voilà, il y a forcément des choses qu'on retrouve de System Shock dans BioShock, comme Ouning disait sur les journaux audio par exemple.
Voilà, on va écouter une musique hein, très très électro, qui aurait pu d'ailleurs figurer dans notre podcast sur l'électro d'il y a 2 mois. Très très dense, très, très trans, tout ça. Un thème qui s'appelle MedSci. Et donc System Shock 2, voilà, que vous allez écouter tout de suite. Et on se retrouve après pour un petit peu plus d'ambiance, on va dire. J'espère que ça vous a fait bouger la tête un petit peu tout ça, que ça vous a un peu réveillé là, ce System Shock 2. Donc le morceau s'appelait MedSci. Et on va continuer avec un morceau déjà beaucoup plus ambiant d'un jeu que j'adore au plus haut point. C'est vraiment le FPS pour moi, référence, même si, si ça n'a pas été non plus le, la grosse référence critique ni référence du public. Mais moi voilà, c'est un FPS qui m'a énormément marqué, qui est sorti sur Nintendo 64 en 2000, qui s'appelle Perfect Dark, suite spirituelle un petit peu de GoldenEye, hein, on retrouve les mêmes niveaux, on retrouve les mêmes armes, on retrouve le même moteur de jeu. D'ailleurs les musiques sont de Grant Kirkhope et de Graham Norgate qui avaient déjà bossé ensemble sur GoldenEye. Le jeu est de Rare qui a développé GoldenEye. Mais c'est quand même pas un James Bond, voilà, on incarne Johanna, hein, une agent qui doit démanteler bien des histoires qui vont l'emmener dans l'espace, sur une planète, la planète des Skedar notamment. Et là on entend la musique en fond de l'avant-dernier niveau, qui s'appelle Attack Ship Covert Assault, et qui se tient dans un immense vaisseau spatial Skedar. Donc les Skedar, c'est des espèces de petits dinosaures un peu vicieux, qui essaie d'envahir la Terre avec des agents infiltrés, en se déguisant en humains. Mais c'est un jeu qui est vraiment assez jouissif, parce que, à mon sens, c'est GoldenEye qui fait partie des références du FPS sur console. Pour moi, Perfect Dark l'a surpassé. Le seul fait que Perfect Dark soit pas plus reconnu, c'est qu'il est sorti un petit peu en fin de vie de la 64. Ouais, il est sorti en 2000, alors que la GameCube est sortie de mémoire en 2001 ou en 2002. Un multijoueur exceptionnel, avec des bots qui ont une intelligence artificielle fabuleuse, qui se comporte limite comme des humains, qui peut être à la fois très facile comme très dur, il y a des réglages monstrueux à faire dessus. Des armes absolument jouissives, voilà, donc c'est vraiment un jeu qu'il faut faire, qu'il faut essayer, ce Perfect Dark.
Et c'est possible, parce qu'apparemment, d'après ce que je vois, il est ressorti sur le XBLA.
C'est possible, il y a eu des suites, il y a Perfect Dark Zero qui est sorti, après j'ai pas les autres en tête, mais oui, c'est très probable que ça ressorti. Hein. Sachant que maintenant, Rare bosse plus pour Xbox, hein, donc oui, c'est d'autant plus possible. Et d'ailleurs, sur Perfect Dark, il y avait des trucs assez rigolos, les développeurs sont un petit peu amusés. Il y a quelques easter eggs qui se glissent un peu dans le jeu. Notamment, on sait pas trop pourquoi il y a des morceaux de fromage dans chaque niveau du jeu. Et on peut les trouver, on peut pas les choper, on peut juste les trouver, on sait absolument pas à quoi ils ont pu servir. On peut trouver des morceaux de fromage, voilà, dispersés dans tous les niveaux du jeu, que ce soit dans l'espace, sur Terre, dans les avions. Très bizarre.
Et donc, il y aura un succès sur la version XBLA.
Faut espérer. Et donc ce thème voilà, de Perfect Dark qui s'appelle Alien Conflict. On va continuer un peu dans les jeux cultes également de Nintendo, toujours dans l'espace évidemment puisque c'est le thème de l'émission de ce mois-ci, avec un jeu qui s'appelle en France Starwing, mais qui est plus connu dans le monde entier sous le nom de Star Fox. Donc un shoot 'em up sorti sur Super NES en 1993, musique de Hajime Hirasawa. On va écouter le thème principal, le main theme de Star Fox. On est d'accord, Star Fox, jeu culte. Quand même. Vous avez pas l'air d'accord.
J'ai pas joué à Star Fox, donc je pourrais pas te dire beaucoup.
Je m'avancerai pas là-dessus.
Ah, quand même, il y a Fox McCloud, Falco, Duo Barrel Roll, tout ça, quoi. Duo Barrel Roll, quoi.
Oui, à part ça, je connais absolument pas le jeu.
C'est terrible. C'est terrible, on va écouter donc le main theme qui est souvent comparé à Star Wars. D'ailleurs la BO a beaucoup fait parler d'elle, puisqu'à l'époque on disait que c'était vraiment comparable à du John Williams, parce que c'était une BO exceptionnelle. Bon, maintenant c'est un petit peu vieilli, c'est sûr, c'est du 16 bits, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais c'est vraiment une très très belle bande-son, il y a notamment le thème de Corneria, le premier niveau du jeu, qui fait très hard rock, on aurait pu vous passer aussi, bien que je vous laisserai écouter vous-même, qui est vraiment très très bonne. Et donc on va écouter, voilà, puisque personne ne peut en parler, le main theme de Star Fox. On se retrouve après pour la fin de l'émission. A tout de suite. Suite et fin de ce 9e épisode d'Original Sound Bloggers. Déjà, un podcast assez court cette fois-ci, en dépit simplement de choses à dire par rapport aux émissions précédentes. C'est vrai que c'est un thème un peu peut-être plus vague, l'espace, que les thèmes qu'on a abordés précédemment. On va donc terminer sur cette dernière salve de musique, sur ces deux dernières musiques, avec une musique de fond d'un jeu dont on a déjà pas mal parlé sans vraiment l'aborder non plus. Un jeu qui est cher à Onink, qui est surtout cher à notre invité, qui n'a pas encore trop parlé finalement, Crystal Warrior. On va écouter donc le thème principal de Mass Effect. Crystal, toi Mass Effect, donc t'as fait la trilogie, tu nous disais, c'est un jeu qui t'a beaucoup inspiré.
Effectivement, c'est un jeu qui m'a énormément inspiré. Je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois parce que cette trilogie est un peu complètement ouf. Ça a été fait par BioWare. Je ne vais pas me tenter à dire le nom du scénariste, mais dans le milieu de la SF, il est quand même assez réputé. Et puis il est aussi l'auteur de quelques-uns des bouquins qui sont sortis sur Mass Effect. Alors, juste avant de parler de Mass Effect, faut savoir que c'est une sorte de suite spirituelle dans l'esprit, dans le gameplay et tout, du Star Wars Knights of the Old Republic qui avait été développé par BioWare. On y retrouve un peu le même système, donc qui était de presque tour par tour et temps réel pour les combats. Et du coup, Mass Effect, ça raconte l'histoire du commandant Shepard, qui est un soldat de l'Alliance, qui a un très beau passé, enfin selon ce qu'on a décidé de lui inventer lors de la création du personnage. Et on l'envoie sur une planète pour récupérer une balise. Et à partir de là, va s'en suivre toute une aventure à travers toute la galaxie, extrêmement épique, avec des moments très dramatiques où il faudra faire des choix qui vont changer un peu le destin de la galaxie. C'est extrêmement, extrêmement prenant, c'est certainement un des meilleurs RPG que j'ai pu faire. Même si le troisième a été assez décrié, notamment pour sa fin. Voilà, moi j'étais un des seuls au moment de la sortie du 3 à protester et dire que la fin était extrêmement bien, que les gens ne l'avaient pas forcément comprise. Je m'étais un peu battu pour ce jeu lors de la sortie du troisième épisode. Vu qu'on parle de musique, oui, j'oublie un petit peu. La musique du 1 et du 2, si je ne me trompe pas, a été composée par Jack Wall et Sam Ulick. Il y a deux types de musique, des musiques un peu plus d'ambiance, comme on peut l'entendre avec le thème principal, même si au fur et à mesure qu'on l'entend, ça augmente quand même en intensité. Et puis après, il y a des musiques un peu plus dynamiques, un peu plus pour les combats. Il y a des musiques aussi qui font très, je dirais presque patriotiques, vu qu'on joue quand même un soldat. Bah, c'est le genre de musique, quand on les entend, on a limite des frissons, c'est joué par un orchestre, c'est grandiose, enfin voilà.
Jack Wall est très très fort pour ça. C'est vraiment son style.
Mass Effect, c'est vrai que c'est le space opéra de cette génération, rien que la carte du monde dans l'espace. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais assez impressionné. Même si ça reste assez basique, on va d'un point A à un point B, on peut pas aller sur tout.
Et puis ça reste, au final, ça reste très linéaire. Enfin, on peut pas forcément visiter les planètes comme on veut. Le santé est quand même extrêmement important. Puis l'univers est extrêmement riche, surtout. J'avais jamais vu un jeu avec un univers aussi développé. Il y a quand même un codex dans le jeu pour justement s'intéresser à tout ce qu'il y a dans le jeu, que ce soit la technologie, l'histoire, les différentes races extraterrestres, l'histoire de l'humanité. Donc en gros, si on veut vraiment découvrir toute l'histoire de Mass Effect, c'est simple, il faut lancer le codex, prévoir peut-être une petite tasse de lait, une petite couverture et passer la soirée à lire, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Puis du coup, ça joue énormément aussi sur le background, puis c'est là où on voit que BioWare est quand même assez doué pour créer des univers riches et intéressants.
Bien, c'est sur ce qu'on va se quitter, les amis. Merci encore de nous avoir écoutés pour ce 9e épisode d'Original Sound Bloggers. Merci encore à notre invité Crystal Warrior, le président de Gamers.fr, de nous avoir fait le plaisir d'avoir passé cette heure avec nous. Merci Crystal.
Pas de soucis, tout le plaisir était pour moi.
Merci encore une fois à mes collègues Onink et Victor, ou Vicpor, ça dépend, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, je pense qu'il s'en fout. Merci les gars encore d'être là, et puis au mois prochain pour la 10e alors.
Ouais, ce sera extraordinaire.
Voilà, donc on s'arrête là avec un thème de diffusion. Ben pareil, un thème culte, ça me fendait le cœur de pas le passer, vu qu'on n'a pas encore parlé de Final Fantasy dans ce podcast et que ça nous manquait, parce qu'on parle tout le temps de Final Fantasy. Final Fantasy 7, voilà. On n'en a jamais parlé. Et le voilà, le Final Fantasy VII. Le thème de Cid, qui est un personnage dont le rêve est d'aller dans l'espace, et qui est nommé par la Shinra pour devenir pilote de la fusée qui est à Fusée Cité. Alors là, bon, niveau traduction, c'est quand même bien débile, Fusée Cité. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas qu'on spoil le jeu, mais en fin de compte, Cid, il va réussir à aller dans l'espace avec cette fusée. Et donc, il y a voilà, ce thème de Cid, moi, il m'évoque énormément de choses. Il m'évoque déjà quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui sait d'aller de l'avant malgré les difficultés. C'est un peu littéraire ce que je dis peut-être, mais cette musique, elle m'évoque ça. Ouais, elle m'évoque un personnage qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'ambition et qui va se battre pour ses ambitions, quel que soit le prix que ça va lui coûter. Et en l'occurrence, ça va lui coûter dans le jeu, mais je vous en dis pas plus. Donc Final Fantasy VII, le thème de Cid, pour terminer. Évidemment, musique de Nobuo Uematsu. On va pas en parler plus parce que je pense qu'à force, vous finissez par connaître un peu l'univers de Final Fantasy si vous nous écoutez depuis un moment. Encore merci à vous, à bientôt pour le 10e épisode. Encore merci à Crystal, merci à Onink et à Victor. On se retrouve très bientôt. À plus
et bisous.
Ciao.
Ciao.